De prendre vos Bibles, trouver le 21e chapitre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 9. Ceux et celles qui étaient ici la semaine dernière, vous allez vous rappeler que nous avons étudié dans les 8 premiers versets l'état éternel. Et nous avons vu le plan de Dieu, nous avons vu la présence de Dieu et nous avons vu aussi la puissance de Dieu. Et maintenant, dans les textes devant nous, l'apôtre Jean du verset 9 de ce chapitre jusqu'au verset 5 du chapitre 22, l'apôtre Jean nous donne une description détaillé de la Nouvelle Jérusalem, la capitale du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Alors, commençons notre lecture au verset 9, Apocalypse 21. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et aux portes 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et si je vous poserais cette question suivante sur cette terre, après la relation qui devrait exister entre Dieu et l'homme, quelle est la relation la plus importante? Et comment répondriez-vous? Peut-être vous l'avez deviné, c'est la relation entre un homme et son épouse. Alors, pour vous qui êtes mariés, nous qui sommes mariés, savez-vous que cette relation-là est plus importante que la relation que vous avez avec vos enfants, bien sûr, si vous en avez? Saviez-vous que cette relation est plus importante que celle que vous avez avec vos petits-enfants, ce qui en a bien sûr, même s'ils sont les plus mignons, les plus mignons au monde. Saviez-vous que cette relation est plus importante que celle que vous avez avec votre chien, votre chat, vos poissons? Monsieur, saviez-vous que cette relation est plus importante que celle que vous avez avec votre emploi, votre voiture, les sports, la chasse, la pêche, j'en passe? Mesdames, saviez-vous que cette relation est plus importante que celle que vous avez avec d'autres femmes, ou avec la maison, ou votre jardin, ou des fleurs, et j'en passe? Alors, puisque cette relation est si importante, sur une échelle de 1 à 10, vous qui êtes mariés, où la placeriez-vous? 1 représente une relation qui est mauvaise, et 10 représente une relation qui est excellente. Ce matin, je ne poserai pas cette question à ceux qui se marieront cet été, ou ceux qui sont en train de se fréquenter. Vos yeux sont trop remplis de petits coins rouges, des étoiles. Ça pourrait fausser les résultats. Mais vous savez, qu'importe où est-ce qu'on place notre relation de couple, mauvaise, médiocre, bonne, excellente, il y a toujours de la place pour l'amélioration. Alors, où aller? Qui regarder? Qui prendre comme modèle? Est-ce votre voisin, le couple qui est à côté de vous? Peut-être que oui. Peut-être que non. Est-ce possible que ce que nous voyons ici le dimanche matin n'est pas nécessairement ce qui se passe au foyer pendant la semaine? Et je ne juge personne. Je connais mon cas, il est aussi méchant et tortueux que le vôtre. Mais alors qu'on veuille améliorer notre relation de couple ou qu'on veuille simplement l'entretenir, si nous avons une bonne relation, on a besoin d'un couple modèle. Un couple par excellence. Et ce matin, je vais vous proposer un couple modèle qu'on trouve dans notre texte. Monsieur et Madame Agneau. Ou si vous préférez, Jésus-Christ et son épouse, la Nouvelle Jérusalem. Notre texte pour ce matin nous enseigne des leçons importantes en ce qui concerne la relation qui existe entre l'agneau Christ et son épouse, la Nouvelle Jérusalem, et une relation qui devrait exister dans tous les couples. Et vous, monsieur, et je parle à moi-même, écoutez bien ce que la Bible enseigne, car en étant chef du foyer, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité de mettre cet enseignement en pratique. Alors tout d'abord, ce texte nous enseigne, la Nouvelle Jérusalem nous enseigne que cette ville-là, qui est l'épouse de l'agneau, sera un témoignage éternel de l'unité et de l'intimité qui existe entre l'agneau et son épouse. L'unité et l'intimité qui existe entre l'agneau et son épouse. Regardez votre texte, s'il vous plaît, au verset 9 encore. Chapitre 21. Un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vins, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » J'aimerais vous faire remarquer cinq caractéristiques de cette ville qui est à la fois l'habitation des rachetés et aussi une image de l'épouse de l'agneau. Cinq caractéristiques qui vont nous démontrer sa parfaite unité avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, On lit au verset 10 que c'était une ville sainte. Et tout comme Christ est saint. Hébreux 7, 26, pas besoin d'y tourner, nous dit ceci. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui qui est saint, innocent, sans tache, etc., etc. Deuxièmement, son nom, Jérusalem. Nous avons vu la semaine dernière que ce nom veut dire en possession de la paix. Ésaïe 9, 5 nous dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est une ville céleste. Verset 10 nous dit que cette ville descendait du ciel. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est une ville qui a la gloire de Dieu. Verset 10 encore. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 17, « Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et son éclat, le texte nous dit, c'est comme celui d'une pierre de jaspe. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 3, l'apôtre Jean va dire quelqu'un qui est assis sur le trône. C'est Dieu lui-même. Il va dire ceci, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et Philippiens 2, 6 nous enseigne que Jésus est égal à Dieu. Alors Jésus aussi a le même. Alors voilà cinq caractéristiques qui nous démontrent que la Nouvelle Jérusalem, l'épouse, ressemble parfaitement à l'agneau, à son époux. Cinq caractéristiques qui témoignent de l'unité qui existe entre eux. Tellement qu'ils se ressemblent que nous disons, nous pouvons dire qu'ils ne font qu'un. Et non seulement il y a un témoignage de l'unité qui existe entre Christ et son épouse, mais aussi il y a un témoignage éternel que Dieu va laisser pour toute l'éternité pour nous démontrer aussi qu'il y a une relation d'intimité qui existe entre les deux. Regardez au verset 10, s'il vous plaît, encore. Et nous lisons à propos de cette ville, « Elle descendait du ciel d'auprès de Dieu ». Cette expression-là d'auprès de Dieu nous parle de quoi? Ça nous parle de cette relation d'intimité parce que la ville est en proximité et proche de Dieu. Et Jésus, dans Jean chapitre 1 et dans d'autres textes aussi, le texte nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Alors les deux ont la même source. Et puisque les deux sont proches de Dieu, mais ils sont proches aussi les uns des autres. Quelle belle illustration de l'intimité. Et ce que nous avons ici dans l'Apocalypse, c'est rien de nouveau. Dans Genèse chapitre 2, nous avons la même relation. Adam avec son épouse Ève. Vous savez, pour former Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris une des côtes d'Adam. Il a formé la femme. Et sur le plan physique, Ève était parfaitement un avec Adam. Elle avait la même ADN. Et même Adam a dit, « Voici, ô de mes os et chair de ma chair. » Et elle aussi, elle jouissait d'une relation d'intimité avec son mari. Après la chute, quand Dieu a justement posé des questions à Adam, « Qu'as-tu fait ?» Il a dit que la femme que tu as mise auprès de moi. Vous voyez comment est-ce qu'elle est sûre, il y avait cette relation d'intimité. Et tout de suite dans le texte au Genèse, pour souligner cette unité et cette intimité, le texte nous dit ceci, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Nous avons aussi aujourd'hui une autre relation qui souligne la même vérité aussi. La relation de Christ et son épouse, l'Église. Juste deux textes pour illustrer cela. Dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens plutôt 6, 15, Paul va dire ceci. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? » Et dans Jean 17, Jésus va prier pour que lui, ses disciples et tous ceux qui vont croire en lui à cause de la parole des disciples soient un, comme lui et le Père aussi sont un. Alors voilà ce que la Nouvelle Jérusalem nous enseigne, que l'institution d'un mariage au commencement, l'union de Christ avec son épouse aujourd'hui et dans l'éternité, la Nouvelle Jérusalem avec l'agneau, c'est que mari et femme ne font qu'une seule chair, unité et intimité. Et cela est tellement important aux yeux de Dieu qu'il va immortaliser cette relation par une ville. Une ville, une épouse qui a les mêmes caractéristiques que son époux et qui va lui ressembler parfaitement pendant toute l'éternité. Vous savez, nous avons une problématique dans notre société aujourd'hui qui fait beaucoup de ravages. Et je parle du divorce. Et ce qui était l'exception à la règle il y a 30, 40 ans est maintenant presque devenu la norme aujourd'hui. Jusqu'au point que si vous dites à quelqu'un, ça fait 20, 25 ans que je suis marié, ils vont vous poser la question, mais est-ce que c'est toujours avec la même femme? Et malheureusement, cette tendance de se divorcer s'est infiltrée maintenant dans l'Église. Jusqu'au point que dans le monde dit évangélique, il y a presque autant de divorcés que dans le monde séculier. On devrait se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Est-ce possible que nous avons banalisé le divorce avec une attitude, bof, si ça ne fonctionne pas dans mon couple, je demande de divorce, c'est tout, ce n'est pas plus grave que cela. Avons-nous oublié que Dieu dit, je hais le divorce, la répudiation, Malachie 2,16. Avons-nous oublié que Moïse l'avait permis, mais seulement à cause de la dureté des cœurs? Matthieu 19,8. Ce n'est pas mon sujet ce matin, ce n'est pas le temps, c'est vaste à ce sujet. Mais pour ceux qui se projettent de se marier, pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui vivent peut-être des choses difficiles dans votre couple en ce moment, et peut-être vous êtes en train de songer à une porte de sortie. Pourquoi ne prendre cet bel exemple ici? L'épouse et son époux, un couple modèle. Pourquoi ne prendre cette relation, et surtout nous les hommes, et dire, je vais travailler à ma relation de couple, pour développer une relation d'intimité, d'unité avec mon épouse, parce que je suis un avec elle. Et laissez-moi vous dire une chose, cher monsieur. Si vous manquez d'inspiration, demandez à vos femmes. Elles vont vous dire, qu'est-ce que vous devrez faire pour qu'elles se sentent vraiment aimées, un avec vous, et aussi avoir une relation d'intimité. Deuxièmement, non seulement la Nouvelle Jérusalem sera un témoignage éternel de l'unité et de l'intimité qui existe entre eux, Christ et son épouse, Monsieur et Madame Adam, Agneau plutôt, mais elle sera aussi un témoignage éternel de la sécurité et de la stabilité que Christ procure pour son épouse. La Nouvelle Jérusalem est un témoignage de la sécurité et de la stabilité que Christ, l'époux, procure pour son épouse. Regardez votre texte encore, si vous voulez, au verset 12. Là, nous lisons, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges. Au verset 17, l'ange mesura la muraille et trouva 144 coudées. Verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, etc., etc. Avant d'aborder ces textes, il est important de dire que les versets 12 à 21 va maintenant décrire l'aspect physique de la ville. Et ce matin, on va être prudent. On ne va pas se donner la spéculation, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme ici. On ne veut pas non plus spiritualiser les textes. Mais dans ces textes-là, nous avons des leçons importantes, très importantes, en ce qui concerne la relation entre un homme et une femme, un époux et une épouse. Pratique qu'on peut y retirer. Alors, une ville dans l'Antiquité, vous savez, avait besoin d'une muraille. Et la muraille d'une ville assurait sa protection. Et nous lisons dans le texte que la Nouvelle Jérusalem est entourée d'une muraille. Et de plus, nous lisons que la muraille est grande, elle est haute. Et ça nous dit que par ce symbole-là, l'agneau, l'époux, se soucie de la protection de son épouse. Verset 17 nous dit que l'ange va mesurer justement la muraille. Il va trouver 144 coudées. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais dans notre système de mesure, c'est à peu près 70 mètres. Et la plupart des commentateurs disent que c'est la largeur de la muraille. Alors, vous avez une muraille qui est grande, vous avez une muraille qui est haute, et vous avez une muraille qui est large, qui entoure cette ville. Et en plus, le texte nous dit que cette muraille-là est construite en jaspe. C'est une pierre précieuse qui symbolise la personne de Dieu. Est-ce que vous avez l'image? Vous voyez l'image? La belle image de la sécurité que l'agneau procure pour son épouse en l'entourant d'une muraille qui est un symbole de sa propre personne. Dans Psaume 125 au verset 2, pas besoin d'y tourner, mais on lit ceci. En parlant de la Jérusalem terrestre, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Et ce qui a été vrai sur la terre sera aussi vrai pendant toute l'éternité. Remarquons aussi au verset 12 que la muraille possède 12 portes. Et encore dans l'Antiquité, les portes d'une ville servaient à garder voleurs, brigands, bref, tous les indésirables à l'extérieur d'une ville pendant la nuit. Et ça, c'est une façon d'assurer sa sécurité. Mais la Nouvelle Jérusalem se sera tellement en sécurité que le texte nous dit au verset 25 que ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Pourquoi en est-il ainsi? Mais dans un premier temps, il n'y a pas de nuit. Fait qu'on n'a pas besoin de fermer les portes. Et aussi, deuxièmement, il n'y a pas d'indésirable dans l'état éternel. Mais en plus de cela, nous avons un autre élément dans le texte qui nous démontre justement jusqu'à quel point le texte veut nous révéler la sécurité de cette ville. Au verset 12, nous lisons ceci, que sur les portes, il y avait 12 anges. Et si vous lisez dans d'autres textes ou vous allez dans le texte original, vous allez voir que la traduction, meilleure traduction, ce serait ici, aux portes, il y avait 12 anges. D'ailleurs, la Bible en français courant dit ceci, elle avait une très haute muraille avec 12 portes et 12 anges qui gardaient les portes. Ça c'est l'idée. Les anges qui sont là, devant les portes, comme des sentinelles. Et vous savez qu'à travers la parole de Dieu, Dieu a toujours utilisé ses anges pour assurer la sécurité et la protection de son peuple. Et dans ici, dans notre texte, c'est une façon de renforcer cette vérité à Nouvelle-Jérusalem. Et ses habitants seront en parfaite sécurité pendant toute l'éternité. Et ces anges-là qui semblent des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, en le voyant ici encore devant les portes en train d'exercer le ministère. Alors, sécurité à cause de la muraille et de ses portes. Et aussi un deuxième élément important, stabilité à cause des fondements de la muraille. Au verset 14, le texte va nous dire ceci, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms, les 12 apôtres de l'agneau. Verset 19, les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, etc., etc. Alors ce matin, on ne fera pas comme d'autres ont fait, la gymnastique mentale pour essayer de dire, OK, il y a 12 pierres précieuses, il y a 12 noms des apôtres, alors quelle pierre précieuse va avec cet apôtre? Ça, ce n'est pas mon but ce matin. Mais j'aimerais juste vous donner une idée des couleurs représentées ici pour qu'on puisse apprécier justement l'éclat qui jaillissait de ses fondements. Alors le blanc, ça c'est le jaspe. On dit que ce serait peut-être mieux traduit par la couleur d'un diamant. Et pour ceux qui aiment des diamants, vous savez justement l'éclat que ça donne. Vous avez le saphir, l'hyacinthe, l'améthyste, mais c'était des pierres de la couleur bleue ou bien des teintes de bleu, ciel, toutes sortes de bleus. Vous avez le chalcédoine, émeraude, béryl, topaz, chrysoprase, ça c'était le vert avec toutes ces teintes. Le sardonyx, sardoine, ce sont des pierres rouges, rougeâtres et ainsi de suite. Et le chrysolite, c'était une pierre jaune, jaunâtre, etc., etc. Alors, ces couleurs qui ornent justement les fondements de la ville. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les fondements. Parce que cette ville, c'est la même ville qu'Abraham attendait par la foi. Et le texte nous dit dans Hébreux qu'Abraham attendait une cité qui avait de solides fondements dans Dieu et l'architecte et le constructeur. Et pourquoi ces fondements sont solides, qui va justement assurer sa stabilité? Mais j'aimerais vous suggérer que les noms des 12 apôtres là est très significatif. Éphésiens 2:20, Paul va dire ceci, en parlant de la stabilité de notre structure, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ce qui a assuré et ce qui assure encore aujourd'hui le fondement de l'Église, le témoignage des apôtres rendu à Jésus-Christ, rendu à la véracité de la parole de Dieu, va être aussi le même fondement qui va assurer la stabilité, la solidité de la Nouvelle Jérusalem. Christ est le fondement. Et Paul va dire ceci, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit aussi dans Matthieu, chapitre 16, « Je bâtirai mon Église sur ce roc lui-même, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. » Et quelle belle image nous avons ici, alors, de cette nouvelle Jérusalem. Solide, stable, à cause de ses fondements. Entourée par l'agneau, la muraille, et reposant solidement sur le fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Je suis conscient que je n'ai rien dit à propos de la signification des noms des 12 tribus d'Israël, parce qu'on a parlé des portes, et il y avait les noms des 12 tribus, des 10 tribus d'Israël. Je n'ai pas parlé non plus de la ville qui a la forme d'un carré, 12 000 stades ou 2 000 kilomètres de côté. Les portes de la ville qui étaient des perles, ce qui a une signification là-dedans, mais on va garder cela pour l'éternité. on va demander à Jésus qu'est-ce que tout cela signifie. Mais j'aimerais vous faire remarquer trois choses. Le fait qu'Israël est mentionné en connexion avec la Nouvelle Jérusalem nous démontre que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et pendant la millénième, Israël va avoir une place de choix et dans l'éternité, dans l'état éternel, Israël aussi est mentionné avec la Nouvelle Jérusalem. Une ville qui est en forme d'un carré, longueur, largeur, et si vous ajoutez la hauteur, ça vous donne un cube. 2000 km de côté. Si vous étiez Vancouver, en Colombie-Britannique, et vous prendrez une marche là, pour marcher le long de la ville, ça vous amènerait jusqu'à Winnipeg, au Manitoba. Vous allez traverser 4 provinces. Si vous mettiez sur la frontière des États-Unis avec le Canada et vous allez au sud, mais vous arriverez dans le golfe du Mexique. Cette ville est immense. Et je pense que Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a de la place. Mais ce qui est dommage, et je fais une parallèle avec l'arche de Noé, il y avait de la place. Seulement 8 personnes furent sauvées. La ville aussi a 12 portes. 3 au nord, 3 au sud, et ainsi de suite, accessibles. Et pourtant, combien de personnes vont y entrer? Laissez-moi vous poser une question ce matin. Quelle est la plus grande menace, on a parlé de sécurité et stabilité, quelle est la plus grande menace pour un foyer ou une église, si on fait l'application? Selon vous, quelle est la plus grande menace? Et peut-être on serait porté à dire le faux docteur. Mais vous savez que ce n'est pas tellement cela. La plus grande menace pour la sécurité, une stabilité pour une église, ce sont les leaders. Quelqu'un a bien dit, une église ne peut pas être plus spirituelle que ses leaders. Et c'est pourquoi Dieu a donné les hommes de Dieu qui sont doués, afin que le peuple de Dieu ne soit plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Et montrez-moi une assemblée, une église où les leaders sont fondés et enracinés dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine. Et je vais vous montrer une église où les brebis se sentent en sécurité. Combien alors c'est important que nos leaders soient les hommes de Dieu. Même chose aussi dans le foyer. Le chef devrait être aussi fondé sur la parole de Dieu. Et j'aimerais juste, avant de quitter ce thème, m'adresser pour quelques instants aux jeunes femmes qui se marieront cet été ou plus tard. Pourquoi avez-vous choisi votre futur? Parce qu'il est beau. Ça peut être important pour quelques-uns. Quelques-unes plutôt. Pourquoi avez-vous choisi votre futur? Parce qu'il y a un bon emploi, et ça va être un futur Bill Gates. Puis il peut vous assurer d'une sécurité, acheter beaucoup de bébelles, comme on dit en bon québécois. Ça aussi, ça pourrait être important pour quelques-unes. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que celui que vous avez choisi est-il un homme de Dieu? Et je suis certain que si vous demanderiez ce matin aux femmes plus âgées, des femmes spirituelles, qu'est-ce qui les sécurise le plus dans le foyer? Je suis certain que ces femmes vous répondriez, c'est parce que je sais que mon mari est un homme de Dieu qui est fondé sur la parole de Dieu. C'est ça qui sécurise une femme, un mari. Et monsieur, n'ayez pas peur de vous, que votre femme vous voit en train de prier ou de méditer la parole de Dieu. Ça la sécurise. Un solide fondement. Parce que vous êtes en train de poser un fondement dans votre vie. Et tout foyer, toute église a besoin de ces fondements. Et troisièmement, et je termine avec ceci, l'unité, intimité, sécurité, stabilité. Troisièmement, Nouvelle Jérusalem sera un témoignage éternel de la gloire et l'honneur que l'agneau confère à son épouse. La gloire et l'honneur que l'agneau confère à son épouse. Pourquoi la gloire et l'honneur? Dans un premier temps, si vous lisez le verset 22, nous lisons ceci, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et dans l'Antiquité, tout comme la présence d'un temple pour une divinité apportait honneur et gloire à une ville, prenez par exemple la ville d'Éphèse. Tout le monde en parlait d'Éphèse parce qu'il y avait un temple. Temple de déesse, Diane qui était là. Et en passant, plus que la divinité était importante, mais plus que la ville avait justement du prestige et d'honneur. Par exemple, si vous aviez chez vous un temple pour Zeus ou Jupiter, mais votre ville avait plus de prestige que si vous aviez un temple pour le dieu Scarabée, là, par exemple. Okay? Et ici, dans ce texte, ici, nous avons la présence de Dieu. Et remarquez, le texte va souligner. C'est le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Et ça, on dit long sur l'honneur et la gloire que cette présence de Dieu-là va apporter à la Nouvelle Jérusalem. Et dans un contexte parallèle, vous allez vous rappeler dans l'Exode 33, où Moïse veut se rassurer justement de la présence de l'Éternel avec le peuple. Il dit, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Et Moïse va dire ceci, écoutez bien. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons, remarquez bien, distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. La présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël a porté une distinction, une honneur, justement pour ce peuple. Et la présence de l'agneau et le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans la Nouvelle Jérusalem est une honneur et une gloire pour cette ville. Ce serait un peu comme Trois-Rivières qui allait accueillir justement les Jeux olympiques de l'été. Ce serait tout un honneur, toute une gloire pour notre ville. On capoterait, comme on dit en bon québécois. Tellement on serait honoré. Et non seulement la ville va être honorée par la présence, mais aussi un privilège. Au verset 23, nous lisons ceci, « Elle n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'agneau, de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Et au verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière. » Et sur la montagne de la Transfiguration, il y avait trois disciples privilégiés, Pierre, Jacques, Jean, qui étaient témoins, qui étaient les spectateurs de la gloire du Seigneur. Ici, il y a une différence. La gloire de Dieu est dans la ville. L'agneau et le flambeau, et cette gloire émane de la ville. La ville va rayonner avec la même gloire que la gloire de Dieu. Et celui qui a dit, « Je suis l'Éternel, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre », en parlant des idoles, va partager sa gloire ici avec son épouse. Elle va briller. Et même jusqu'à quel point, elle aussi, elle va éclairer des nations. Quel honneur! Quel honneur! Et troisièmement, honoré par la présence de l'agneau, honoré par le privilège de refléter la gloire de l'agneau. Troisièmement, honoré par la passion altruiste de l'agneau. Regardez au verset 27, le texte va dire ceci, « N'entra chez elle rien de souillé. Il n'entra que ceux qui sont décrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ça peut paraître étrange. Pourquoi est-ce que Jean va parler ici du péché quand on sait qu'il n'y aura pas de péché dans l'état éternel? Satan, les rebelles, ces démons sont tous consignés, leur dans les temps de feu pendant toute l'éternité. J'aimerais vous suggérer qu'ici, le divin époux, Jésus-Christ, est en train de souligner qu'il est tellement passionné pour la pureté de son épouse que même avant la fondation du monde, il a décrété des noms de ceux qui seront là et ceux qui sont dans son livre sont ceux qui ont été purifiés, qui ont été lavés par son sang. Il est passionné justement par la pureté. Et cette décision, il n'a pas pris ça à la dernière minute. Même avant la fondation du monde, il a décidé que cette femme, cette épouse sera pure. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il écrit des noms. Et ceux qui sont dedans sont les gens aussi qui ont été purifiés. Alors, il n'y a rien qui rentre dans cette ville qui peut la souiller et qui peut justement ternir son image. Et ça aussi, c'est une honneur pour l'Église. Vous savez, ce matin, on a lu une lettre d'une brebis repentante. Et souvent, les gens, peut-être, nous posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on applique encore la discipline? Qui, peut-être dans d'autres églises, est une pratique désuète, presque démodée. Est-ce que nos leaders ici sont des gros méchants? J'aimerais vous suggérer que vous avez des leaders qui sont passionnés pour la pureté de l'Église. Et c'est pourquoi on applique la discipline. Ce n'est pas une chose qu'on fait avec gaieté de cœur. Mais Christ est passionné pour la pureté de son épouse. Et des leaders spirituels devraient être passionnés pour la pureté du peuple de Dieu. Et en parlant aussi de pureté, vous qui sont dans une relation de fréquentation ou de relation où est-ce que vous allez vous marier, avez-vous aussi pris la résolution de vous garder pur pour le mariage? Christ a pris une décision avant la fondation du monde. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais au moins, vous pouvez fixer justement des limites dans votre intimité pour que quand vous arrivez au mariage, vous êtes pur. Vous savez, c'est comme ça qu'on honore nos futurs. Et pour nous qui sommes mariés, nous les hommes, sommes-nous passionnés pour la pureté de notre épouse? Je termine avec une citation de John MacArthur. Pour les maris, aimer leur femme comme Christ, son Église, nécessite donc que leur amour soit soucieux de pureté. Si l'amour divin s'efforce de laver totalement l'objet de son amour, de tout péché et de tout mal, le mari chrétien ne devrait pas s'accommoder d'un péché qui puisse déplaire à Dieu dans la vie de son épouse. Qu'elle devienne parfaitement conforme à Christ devrait être son plus cher désir et il devrait donc la conduire sur le chemin de la pureté. Et j'écris ici comme note, vous ne pouvez pas conduire quelqu'un plus près du Seigneur que vous ne l'êtes vous-même. Et si nous voulons avoir des épouses qui sont pures, mais ça commence avec nous les hommes. Soyez saints, car je suis saint. Alors voilà, quelle belle image d'un couple qui vit en intimité, en unité. Un couple où est-ce qu'il y a une relation de sécurité et stabilité. Un couple aussi où est-ce que l'épouse est honorée. Que le Seigneur nous donne la grâce, nous, en tant qu'homme, leader spirituel, de bâtir de telles relations avec nos épouses. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, pour ta parole qui est la vérité. Donne-nous maintenant la force, donne-nous maintenant, Seigneur, ta grâce de le mettre en pratique. Bénis ton peuple, garde-nous, Seigneur, de tout ce qui peut te déplaire, et Seigneur, encore une fois, s'il y a parmi nous quelques-uns qui ne te connaissent pas, qui ne seront pas dans la Nouvelle Jérusalem, Seigneur, on ne sait pas, c'est toi qui connais les cœurs. Nos prières ce matin, c'est que ces personnes ne continuent pas sur ce chemin qui mène à la perdition, mais que tu puisses ouvrir leurs yeux et leur montrer la beauté de Christ à la croix. Laver de leurs péchés, Seigneur, qu'ils puissent dire oui, ma place est prête pour l'éternité. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.